On va venir pour des douleurs de règles. On va pas venir parce qu'on a de l'endométriose.
Donc c'est un peu caché. Voilà. On
va
voit
dire,
la silhouette.
Voilà, j'ai des douleurs abdominales au moment des règles. Et puis après, on va avoir des douleurs au moment des ovulations. Et en fait, c'est pas qu'un problème gynécologique, hein, en fait, l'endométriose.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti.
Crampes insoutenables pendant les règles, douleurs pendant les rapports ou la digestion, fatigue chronique, infertilité, l'endométriose touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Pourtant, il faut en moyenne 6 à 10 ans pour poser un diagnostic. Encore trop méconnue, elle impacte cependant profondément le quotidien des personnes concernées. L'endométriose, c'est quoi ? C'est une maladie inflammatoire chronique qui se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, le plus souvent dans le bas-ventre, mais parfois jusqu'aux poumons ou aux épaules. Ces cellules réagissent aux cycles hormonaux, provoquant inflammation, adhérence et douleur, souvent invalidantes. Mais au-delà des traitements médicaux conventionnels, des approches complémentaires peuvent aider à mieux vivre avec la maladie. Activité physique douce, gestion du stress, sommeil réparateur, régime anti-inflammatoire, plantes médicinales ou encore antioxydants, il est possible de mieux vivre sa maladie grâce à une approche globale et individualisée. Alors sans plus tarder, faisons le point sur les dernières avancées médicales, les leviers d'action au quotidien et les pistes concrètes pour mieux comprendre et accompagner cette pathologie encore trop souvent invisible. Pour cet épisode, j'ai fait appel à Hélène Thierry. Bonjour Hélène, bienvenue.
Bonjour Noémie.
Je suis ravie de t'avoir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très demandé et en tout cas qui touche beaucoup les personnes. Alors tu es sage-femme consultante en lactation certifiée, mais tu as aussi un diplôme universitaire européen en micronutrition, alimentation et prévention santé, avec au total 30 ans d'expérience. Alors j'étais vraiment surprise de la combinaison micronutrition slash sage-femme, mais tu m'as expliqué que ça avait commencé déjà il y a longtemps avec toi quand tu étais dans les hôpitaux en Angleterre. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton background ?
Alors moi je suis anglaise d'origine. Oui. J'ai habité au Canada et j'ai émigré en France parce que je voulais faire un diplôme de sage-femme et je voulais être dans les meilleures sages-femmes au monde. Et
donc
les meilleures sages-femmes au monde étaient en France. Et donc, j'avais la possibilité de venir faire mes études ici. Et j'ai passé le concours et je l'ai eu. Donc, je suis venue faire des études de sage-femme en France.
En regardant un peu ce que faisaient les sages-femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des superwomen parce qu'elles font, elles s'occupent des femmes, elles s'occupent des enfants jusqu'à 3 ans. L'IVG, il y a aussi la vaccination et la PMA. Mais du coup, en fait, vous pouvez vous intéresser vraiment à plein de facettes de la médecine en général.
Et on s'occupe aussi de la nutrition familiale.
Ah, d'accord. Ouais. Donc pour toute la famille, du coup, même
pour
les hommes.
Pour toute la famille, parce qu'en fait, on est là pour de la prévention. On est là pour faire de la prévention, pour la nutrition.
Et chez nous, le dimanche, c'est sacré, chez Sunday. C'est quoi la chose que tu aimes le plus faire le dimanche ?
Toute seule, tranquillement, à prendre mon café sur la terrasse.
En paix.
Voilà. Et après ça, je vais au marché.
Ah oui.
Je vais au marché et je vais chez les petits producteurs qui sont dans un petit marché à côté de chez moi. Et je vais choisir mes légumes et mes fruits que je vais donner à ma famille pendant toute la semaine.
Ah, c'est super généreux.
Voilà.
Trop bien. Et du coup, tu accompagnes des femmes atteintes d'endométriose depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ?
Je me suis d'abord occupée surtout des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Mm-hmm. Et surtout, j'avais commencé pour la nutrition des femmes allaitantes et surtout les problèmes digestifs chez les bébés.
Mm-hmm.
Et je dirais que j'ai commencé à penser que je pouvais avoir un impact sur l'endométriose dans les années 2020.
Ouais.
Ça fait peut-être 5 ans que je m'y suis vraiment attelée, où j'ai vraiment cherché ce qui pouvait donner l'endométriose et sur quel biais j'allais pouvoir jouer pour pouvoir améliorer l'état de mes patientes.
Et du coup, tu avais des patientes atteintes d'endométriose qui étaient aussi enceintes
Non, ou qui étaient là juste pour de la fertilité.
Ah oui.
Ou des problèmes de douleur de règles.
Ouais.
Et qui voulaient faire autre chose, par exemple, que de prendre la pilule.
Mmh. Oui, c'est vrai que les solutions, on va le voir plus tard, parfois à donner, sont un peu compliquées. Mais j'ai lu dans le e-book allemand de nos rédactrices internes et de Katharina Maria Burkhardt, qui a développé beaucoup de produits sur la santé féminine chez Sunday, elle disait que l'endométriose était souvent qualifiée de caméléon de la gynécologie. Est-ce que ça te parle comme image ?
Alors, oui, ça me parle parce qu'en fait, on va venir pour des douleurs de règles. On ne va pas venir parce qu'on a de l'endométriose.
Ouais. Donc, c'est un peu caché. Voilà. On
va
voit
dire,
la silhouette.
Mais... voilà, j'ai des douleurs abdominales au moment des règles. Mmh. Et puis après, on va avoir des douleurs au moment des ovulations. Mmh. Et en fait, c'est pas qu'un problème gynécologique, hein, en fait, l'endométriose. Et donc, en fait, il n'y a qu'un problème gynécologique. Et en fait, si on s'attelle qu'au problème gynécologique, effectivement, on ne va pas y arriver.
Mmh. Du coup, il faut regarder un peu en dessous, aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre les mécanismes de l'endométriose ? Déjà, est-ce qu'on a de la prédisposition à l'endométriose ? Est-ce que si on en a dans la famille, c'est possible que nous, on en ait ?
Je n'ai pas vraiment regardé ça, Noémie. Je sais qu'on a des prédispositions parce qu'il y a des déficits génétiques que je vais retrouver plus facilement chez ces patientes-là. On sait que le test est basé sur des micro-ARN qu'on va retrouver dans la salive de ces personnes-là. Mm-hmm. Donc ça touche à la génétique et à l'épigénétique. Donc il y a probablement quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'on n'a pas encore...
C'est pas avéré encore.
...assez de données pour savoir exactement... sur quoi est-ce qu'on pourrait pointer le doigt, et probablement plusieurs facteurs. Hein.
Mmh. Tu m'avais dit en préparant l'émission qu'il y avait 3 dysfonctionnements dans l'endo, le système immunitaire déficient, l'inflammation chronique, l'hyperostrogénie. Comment ça apparaît ces dysfonctionnements ?
En fait, au tout début, quand j'ai commencé à m'occuper de ce problème-là, je me suis dit, j'ai pris la personne en globalité et j'ai dit, OK, qu'est-ce qui fait que cette personne a ce problème-là, qu'est-ce qu'elle a qui ne fonctionne pas chez elle ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, j'avais une hyperœstrogénie. C'était des gens qui avaient des carences qui faisaient en sorte que les œstrogènes s'exprimaient plus que la progestérone. Pas forcément avoir plus d'œstrogènes dans le sang, mais comme les autres hormones étaient défavorisées, eh ben c'était celles qui s'exprimaient le plus. Et c'est pour ça que des fois, quand on fait les dosages d'œstrogènes, on a des taux d'œstrogènes qui sont normaux. Mais si on regarde par rapport aux autres hormones, en fait, on a une quantité d'œstrogènes sur les 100% d'hormones qu'on a dans le corps qui est plus importante. Mmh. Après, la deuxième chose, c'est que tout le monde parlait du flux rétrograde. C'est-à-dire qu'on parlait du fait que les cellules de l'endomètre allaient remonter dans les trompes et aller dans l'endomètre. Mais on parle aussi d'adénomyose, qui est aussi une partie où les cellules de l'endomètre se sont fixées à l'intérieur du muscle de l'utérus. Mmh. Et on trouve aussi de l'endométriose dans le cerveau d'un homme. On a trouvé sur de la napate de l'endométriose dans le cerveau d'un homme. Ce qui veut dire que ça ne touche pas que les femmes. Et donc, ça ne peut pas forcément venir que de l'utérus.
Ouais. Donc, ça vient d'autre chose.
Donc, ça vient probablement d'autre chose. On sait que dans chacune de nos cellules, on a le programme génétique pour fabriquer toutes les cellules du corps. Et même les hommes ont, dans le programme génétique, dans leurs cellules, aussi le programme génétique qui permet de fabriquer ces cellules de l'endomètre. Donc, régulièrement dans notre corps, il y a des ratés. Moi, je pense que probablement... il y a des moments où il y a des cellules de l'endomètre qui doivent se fabriquer à des endroits anormaux dans notre corps et qui vont pouvoir se développer parce qu'elles ont de la nourriture. Et ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les personnes qui ont de l'endométriose ont une inflammation chronique. Et c'est vrai que ces cellules vont être friandes de tissus qui sont inflammatoires, qui permettent de les nourrir de sang. Parce qu'il faut bien qu'elles se nourrissent. En plus, elles sont... très sensibles aux hormones, et les hormones circulent dans le sang. Donc, il faut qu'elles aient des hormones qui puissent leur arriver.
Et le système immunitaire déficient?
Le système immunitaire est déficient forcément parce que quand il y a des cellules à un endroit anormal, ça nous arrive tout le temps. Bon, là, on parle des cellules de l'endomètre, mais on peut parler d'une cellule de la peau, par exemple, qui est en train de se fabriquer dans un foie. Là, peut-être que dans mon foie, là, je suis en train de fabriquer une cellule de la peau. Mais mon système immunitaire, il va voir, il va dire, dis donc, tu n'as rien à faire là, je te colle une étiquette, paf, et le premier nettoyeur qui vient, il lui dit, bah, tu te suicides. Ça s'appelle l'apoptose. Et ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans notre système immunitaire. C'est-à-dire que on fait le nettoyage, on fait en sorte que les cellules d'un organe restent bien dans cet organe et ne débordent pas.
Ouais.
Elles débordent quand on a des pathologies aussi, comme les cancers. Hein, les cellules cancéreuses, elles peuvent déborder d'un organe. Et ça, c'est une pathologie, hein, c'est pas normal. Donc, si on a un système immunitaire qui est efficient, il va trouver les cellules qui sont anormales et il va lui dire, bah, tu te suicides et tu t'en vas. Voilà. Et donc, on n'aurait pas d'endométriose si on avait un système immunitaire comme ça qui fonctionne bien. Alors, elles ont quelque chose de particulier, les cellules de l'endomètre, c'est qu'elles sont capables de cacher le fœtus du système immunitaire, parce que le fœtus ne fait pas partie de nous, il est qu'un demi-soi, et elles sont capables de se cacher du système immunitaire. Donc, peut-être qu'elles ont un petit plus qui fait qu'elles ont réussi à limiter ce système de l'apoptose qui peut les détruire.
Du coup, on parle des trois dysfonctionnements, mais il y aurait aussi trois formes selon la localisation des lésions, donc soit interne à l'utérus, l'adénomyose, externe dans le petit bassin, ou plus rarement dans les organes, comme on disait, la vessie et les poumons. Est-ce que ces localisations différentes dans le corps, elles influencent la sévérité des symptômes, le diagnostic ou les traitements, selon
Alors, dépendant de là où ça se trouve, on va plus penser à une endométriose qu'à autre chose. Si ça se trouve dans le cerveau, par exemple, ce monsieur qui est décédé, à qui on a fait de la napate et où on a trouvé de l'endométriose dans son cerveau, à mon avis, ils n'ont pas suspecté une endométriose.
Ouais.
Hein? Donc, peut-être que quand on le trouve dans les poumons ou à un endroit assez loin de l'utérus, on ne va pas penser à de l'endométriose en premier. Peut-être que quand c'est dans le petit bassin, ça va être plus facile de trouver de l'endométriose.
Donc, pour le diagnostic, déjà, ça a un impact.
Ce sera plus facile. Après, les diagnostics sont très difficiles par radio, imagerie. L'IRM, l'échographie n'est pas forcément super. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. De temps en temps, on peut voir des amas de cellules de l'endomètre qu'on va voir à l'échographie ou à l'IRM. Mais quand il n'y a qu'une ou deux cellules sur un tissu, ça ne se voit pas. Et pourtant, ça peut faire très mal.
Et du coup, pour les douleurs, là, si c'est dans le bas-ventre, bah, du coup, ça peut être des douleurs abdominales. Mais si c'est ailleurs,
On va avoir des douleurs ailleurs.
Ouais.
Okay. Avec des saignements ailleurs. On peut en trouver même dans les articulations ou des choses comme ça. Il y a eu des cas de décrits dans la littérature qui sont très impressionnantes et intéressantes aussi, parce que ça nous donne des idées.
Ouais. Quand on arrive du coup à avoir des douleurs intenses, des saignements aussi internes, de l'inflammation chronique et des adhérences. D'ailleurs, quand j'ai lu ça, des adhérences, je ne savais pas trop ce que c'était. Est-ce que toi, tu sais?
Eh bien, en fait, quand tu as un tissu inflammatoire, imagine que je me suis coupée sur deux parties de mon doigt, de mes deux doigts.
Genre moi, là.
et je les colle ensemble.
Ouais.
Et je les laisse comme ça pendant très longtemps. Ben, il est possible que la plaie se referme et que mes doigts restent collés. Et c'est ça, les adhérences.
Ah, okay.
C'est deux tissus qui vont être inflammatoires et avoir une plaie et qui vont se coller et voilà. Après, il va y avoir aussi des tissus inflammatoires comme de la fibrine qui va se fabriquer autour de ces organes. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand on se coupe. On peut avoir des petits tissus blancs, jaunes, un peu nacrés, qui sont un peu suintants. Et que ça, c'est de la fibrine. Et puis, ça peut se coller à un autre organe, ça.
Apparemment, il y a certaines femmes qui ont peu de lésions, qui souffrent énormément, et d'autres avec des formes étendues qui n'ont presque aucun symptôme. Comment c'est possible?
Je vais te donner Alors, je vais prendre ma casquette consultante en lactation.
Ok.
Mais quand on a des crevasses, c'est dû à une irritation de la peau au niveau des mamelons. Et quand le bébé est mal positionné, il va frotter beaucoup plus fort le sein et ça va créer ce qu'on appelle des crevasses. Et quand on les voit, en général, on a moins mal que quand on ne les voit pas. quand on a juste la peau un peu rouge, en fait, dans la peau, il y a énormément de cellules nerveuses. Et si on commence à râper la peau, qu'on la frotte comme ça pendant très longtemps, on va atteindre le derme. Et quand on va atteindre l'épiderme, eh ben, on va avoir énormément de nerfs, on va avoir très mal. Mais quand j'aurai plus du tout de peau, j'aurai plus mal.
Ah oui.
Parce que j'aurai plus de nerfs. Donc, dépendant de la lésion, est-ce qu'elle va toucher un endroit où il y a beaucoup de nerfs ou pas beaucoup de nerfs, eh ben, on va avoir mal ou plus mal ou moins mal.
Donc, c'est vraiment très individuel, en fait.
Oui.
J'ai lu que les symptômes typiques sont parfois regroupés sur ce qu'on appelle les 4D. La dysménorrhée, les douleurs menstruelles intenses.
Moi, je dirais que ça, c'est celle qui est la plus commune, quand même.
Ouais. Ensuite, il y a la dysurie, les mixtions difficiles et ou douloureuses, la dyskésie, difficulté à évacuer les selles, dyspareunie, les douleurs pendant les rapports sexuels, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même d'autres symptômes, la fatigue par exemple, ce genre de choses.
On va avoir forcément une fatigue chronique parce que si tu as des saignements un petit peu dans ton corps, tu vas avoir une perte de fer. Et plus tu as de perte de fer, plus tu as d'hyperœstrogénie. Donc, le fait que tu aies une...
C'est une conséquence.
C'est les deux. C'est-à-dire que tu as une hyperœstrogénie, tu vas saigner plus, tu vas perdre encore plus de fer et ça va s'aggraver en fait. C'est un cercle vicieux.
Et pour la dysménorrhée, tu disais, c'était le plus courant
Les douleurs de règles, moi, je dirais que toutes mes patientes qui viennent pour de l'endométriose ont commencé par une période où elles avaient des règles douloureuses.
Et pour le reste, la miction difficile,
ça dépend si ça touche la vessie ou si ça touche... Okay. Alors, la vessie, c'est en avant de l'utérus. Le rectum, c'est en arrière. Et donc, on ne va pas avoir forcément les mêmes symptômes selon que l'endométriose s'est fixée à l'intérieur du bassin, pas à l'intérieur du bassin, sur l'utérus, pas sur l'utérus. Et parce que si tu en as que qui s'est fixée sur ton foie, par exemple, tu ne vas pas avoir de problème au niveau du rectum ou de douleur quand tu vas avoir des rapports.
Il y a du coup les femmes qui nous ont répondu à notre questionnaire sur Instagram. En moyenne, c'était 10 ans pour être diagnostiquée. Donc 10 ans d'errance, de souffrance, de consultation à répétition. Le monde du diagnostic, il est souvent vécu avec soulagement hein, parce que c'était vraiment long. Mais c'est vite teinté de colère.
Le problème, Noémie, c'est que, OK... On va te dire, voilà, tu as mal pendant des années, tu as des douleurs de règles, et personne ne fait rien.
Ouais. Alors 10 ans, c'est long dans une vie.
On aurait pu faire quelque chose avant.
Ouais.
Parce que les douleurs de règles, on peut faire quelque chose pour ça. Moi, je sais que j'ai énormément de patientes qui viennent et on leur donne des oméga 3. On fait attention à ce que la gestion des hormones soit meilleure avec en comblant les déficits en minéraux, en vitamines. Et tout d'un coup, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai plus mal aux règles pendant mes règles.
Et justement, quand elles vont voir le médecin, par exemple, elles disent que c'est normal d'avoir mal pendant les règles.
Ben, moi, je dis, la première chose que je dis à mes patientes, c'est pas normal d'avoir mal. Le mal, c'est une sonnette d'alarme pour le corps. Ça veut dire que tu as quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, quand on a mal, il faut s'en préoccuper. Alors, tu disais tout à l'heure...
La colère, en fait.
Oui, la colère. Alors, moi, je dirais que oui, la colère, elle est là parce qu'une fois qu'on a diagnostiqué de l'endométriose, qu'est-ce qu'on va leur proposer ?
Rien. Parce que là, ce qu'on leur propose, du coup, c'était, je les ai notés, ça ira mieux après l'accouchement.
Je vois pas comment un accouchement peut arranger l'endométriose.
L'autre, c'est, il faut reprendre la pilule, madame.
Voilà, alors on donne effectivement la pilule parce qu'on va donner des progestatifs qui vont permettre de rééquilibrer quelque part les œstrogènes, puisqu'on sait que les œstrogènes s'exprimaient trop. Donc, si on donne de la progestérone, on va diminuer l'expression des œstrogènes, on va diminuer effectivement la progression de cette maladie. Mais est-ce qu'au long terme, ça va faire quelque chose? Peut-être pas.
Et le reste qu'on a dit du coup à ces personnes, c'est non, pas la chirurgie.
D'accord.
Vous ne tenez pas la douleur. Donc, en gros, il faut vivre avec ça, quoi. Oui. Ou alors, c'est à la mode comme maladie, donc alors, c'est dans la tête.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de discours, voilà.
Oui, du coup, il ne faut pas attendre, en fait.
Non, il ne faut pas attendre d'avoir mal. Et quand on a mal, c'est un signal d'alarme. Donc, il faut faire quelque chose.
Oh, OK.
Et il faut trouver, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve.
Est-ce que, du coup, le cycle menstruel d'une personne qui est atteinte d'endométriose, il est différent d'un cycle d'une personne qui n'en a pas?
Eh bien, il peut, mais pas forcément.
OK.
On peut avoir un cycle tout à fait normal, et toutes mes patientes n'ont pas problème de fertilité non plus. Hein, parce qu'on parle beaucoup d'infertilité avec l'endométriose, mais ce n'est pas vrai, ça ne touche pas la majorité des femmes. Mmh. Donc, ça veut dire qu'elles ont un cycle tout à fait normal, ces femmes-là.
Et du coup, ça va se concrétiser par quoi?
Eh bien, on peut avoir, on peut avoir associé à l'endométriose un syndrome des ovaires polykystiques, donc avoir des cycles qui sont plus là, avec plus d'ovulation.
Est-ce que l'évacuation de la muqueuse aussi, elle se fait différemment?
L'évacuation de la muqueuse, elle se fait de la même façon. La seule chose, c'est que la muqueuse qui est à l'intérieur du corps ne peut pas s'évacuer. Et de ce coup-là, elle est dégradée par le corps. Donc, ça demande un effort supplémentaire au corps.
Apparemment, du coup, ce qui était surprenant, c'était l'endométriose thoracique à d'autres endroits. Si on a déjà du mal à diagnostiquer du coup les formes classiques avec plus de 10 ans d'attente avant un diagnostic, c'est encore pire si c'est des cas particuliers.
Dans les chiffres, j'ai des patientes qui viennent qui pensent qu'elles n'ont pas du tout d'endométriose. Et quand on fait la prise de sang, en fait, elles ont les trois trucs qui dysfonctionnent. Elles ont effectivement une hyperœstrogénie, de l'inflammation chronique, un problème immunitaire. Donc,
juste les règles,
probablement qu'elles ont de l'endométriose, mais qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est exactement et qu'on ne l'a pas diagnostiqué. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en préoccuper.
Et maintenant, avec le test salivaire là, qui est mis en place...
Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'études encore
sur... Là, il y a 80 hôpitaux apparemment qui font...
Mais les études ne sont pas finies et ils ne savent pas si c'est très fiable comme dépistage. Ils ont fait le test endo, il a été mis en place en regardant la salive et les micro-ARN qu'on trouvait dans la salive des personnes qui avaient de l'endométriose. On ne sait pas encore si le retour du dépistage de la population en général va être positif. Par contre, est-ce que ça va enlever la colère de ces patientes qui sauront qu'elles ont de l'endométriose et où on ne leur proposera pas grand-chose?
Ça, on va voir ça après. Est-ce que la maladie, elle peut évoluer avec le temps?
Oui, en général, la maladie évolue avec le temps. Après, ça dépend si on prend en charge un des trois dysfonctionnements et qu'est-ce qu'on va faire pour la santé de notre corps.
Donc, il faut quand même surveiller pas mal.
Qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour améliorer les choses? Parce que la douleur au niveau des règles, il y a des personnes qui vont prendre en charge en diminuant le sucre dans leur alimentation, en essayant d'arrêter les aliments ultra transformés, en faisant du sport, de la méditation pour diminuer le stress. Donc, on peut faire des choses comme ça.
C'est assez peu commun d'entendre qu'il y ait des troubles digestifs ou urinaires avec l'endométriose. C'est quoi les mécanismes derrière
ça? Les troubles urinaires, c'est parce qu'il y a une inflammation. L'utérus est juste à côté de la vessie et il y a une inflammation de l'utérus. Et puis, des fois, il peut y avoir une invasion de l'endomètre vers la vessie. Donc, on peut trouver des cellules de l'endomètre dans la vessie. Et puis, les troubles digestifs, ils sont quasiment chez toutes mes patientes qui ont de l'endométriose. Ça va avec l'inflammation chronique de bas grade, qu'on appelle. Quasiment toutes mes patientes ont un déficit d'une enzyme qui est responsable de fabriquer la nourriture pour le bon microbiote. Et elles ont une dysbiose. Elles ont un mauvais microbiote. Quasiment toutes.
Il y a aussi certaines études qui parlent de 6 fois plus de cas d'hypothyroïdie chez les femmes atteintes d'endométriose. Comment on explique le lien aussi fort aussi?
Alors, en fait, l'hypothyroïdie est favorisée par un déficit en fer, un déficit en iode. Quand on a les intestins abîmés, on a une fuite d'iode en général. On va avoir aussi un déficit en vitamine D, quasiment chez toutes les patientes. Et toutes ces fuites de vitamines et de minéraux qui sont surutilisées vont avoir un impact sur la thyroïde. Et la thyroïde, le fait qu'elle ne fonctionne pas bien, fait que le corps a moins d'énergie pour fonctionner, puisque la thyroïde gère la transformation du sucre en énergie dans chacune de nos cellules. et va diminuer l'énergie globale qu'on va avoir dans le corps, et donc forcément notre corps va moins bien fonctionner.
D'où le symptôme que je disais, la fatigue.
Ouais, mais c'est comme, c'est un cercle vicieux en fait, ça descend vers le bas, et plus on perd de fer, et plus on perd d'iode, et plus on perd de vitamine D, et plus l'endométriose va s'aggraver.
Tout à l'heure on parlait de lésions à l'utérus, j'imagine que ça peut entraver peut-être la grossesse. Tu parlais aussi de problèmes de fertilité. C'est quoi le lien entre endométriose et fertilité?
C'est-à-dire que l'endométriose va avec une hyperœstrogénie, donc un dérèglement hormonal. Donc, tu as moins de possibilités de fabriquer des ovocytes qui soient,
viables,
qui soient de bonne qualité, et puis en plus, qui puissent sortir des ovaires. Donc, on va avoir au bout d'un moment effectivement une hypofertilité.
Pourquoi alors on parle d'endométriose avec comme une maladie chronique ?
C'est une maladie qui est quand même qu'on a décrit quand même il y a très longtemps, puisque même avant Jésus-Christ, les Chinois avaient décrit l'endométriose dans leur précis de médecine chinoise. Donc, l'endométriose, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, comme beaucoup de ces maladies de civilisation, qu'on appelle maladies de civilisation, qui sont le diabète, le cancer, tout ça, elle a augmenté de la même façon. Et donc, on pense que c'est une pathologie chronique, effectivement, qui est engendrée par notre environnement, notre mode de se nourrir.
Quel est le rôle du système immunitaire dans l'endométriose ? Est-ce qu'il réagit mal aux tissus qui sont déplacés ou qui ne devraient pas être là ?
Alors, normalement, le système immunitaire, il est là pour faire en sorte que les cellules se comportent de façon correcte au bon endroit. Et lorsque le système immunitaire est déficient, et notamment, par exemple, la vitamine D ne fonctionne pas, parce que la vitamine D, c'est le chef d'orchestre du système immunitaire, eh bien, ça va être le bazar. Et puis, personne va rester à sa place. Et normalement, effectivement, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il va générer ce qui s'appelle l'apoptose. Alors, en fait, on a différentes sortes de façons de détruire les cellules qui sont à un endroit anormal. On a l'apoptose, on a la ferroptose, qui est induite par le fer, et on a la pyroptose, qui est induite par la fièvre. Et donc, quand on a une inflammation, on a de la fièvre. Et quand, par exemple, on est malade, on va détruire des bactéries ou des virus avec la chaleur. Et c'est les cellules qui sont autour de ces virus et de ces bactéries qui vont créer de la chaleur et qui vont les détruire, qui vont permettre que ça se détruise. Après, la ferroptose, elle est moins connue, mais dans le cas de l'endométriose, elle n'existe quasiment pas parce qu'on a toujours un déficit en fer en cas d'endométriose. Et puis, l'apoptose, qui est liée aussi au système immunitaire, mais qui est induite par l'ubiquinone, qui est aussi le coenzyme Q10. Les cellules du système immunitaire vont trouver la cellule qui est défectueuse ou qui ne devrait pas être là. Elles vont lui coller une étiquette qui est une ubiquinone ou coenzyme Q10. Et le premier nettoyeur qui vient, il va dire « Ah, dis donc, toi, tu ne devrais pas être là, je te détruis. » Voilà.
Ok, du coup, c'est un peu facile à comprendre maintenant comment on essaye de nettoyer son corps, on va dire. J'ai entendu qu'il y avait aussi pas mal de troubles du microbiote qui étaient liés à l'endométriose. Est-ce que le fait que ce soit proche, ça a un impact ou pas du tout ?
Alors, il y a énormément d'études sur la dysbiose, c'est-à-dire un mauvais microbiote et endométriose. On sait que quasiment toutes les personnes qui ont de l'endométriose ont un dysfonctionnement du microbiote. Et ça montre quoi ? Ça montre que on va avoir une paroi intestinale qui va être abîmée. Et cette paroi intestinale qui est abîmée et lésée va laisser rentrer des protéines ou des virus ou des bactéries, en tout cas des molécules qui normalement ne devraient pas rentrer dans notre corps, et va surutiliser le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, quand il va les voir arriver dans notre corps, il va dire « Dis donc, toi, tu devrais pas être là, t'es probablement dangereux pour moi, et je vais fabriquer des anticorps. » Et ça, ça crée une diversion. Parce que si tout le système immunitaire est occupé à nettoyer tout ce qui rentre dans notre corps le long de notre système, de nos intestins, et qu'il est pas, et ben il va plus avoir assez d'énergie pour s'occuper de l'endométriose.
Mmh. Et du coup, ça peut
voilà. Et en plus, il va augmenter l'inflammation à l'intérieur du corps, et donc ça va favoriser encore le développement de l'endométriose.
Est-ce que le cortisol aussi, il peut aggraver les symptômes ou
Oui, le cortisol peut aggraver les symptômes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on recherche, c'est que la personne, elle n'est pas une mauvaise gestion du sucre. Et le cortisol, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la quantité de sucre qui est disponible dans le corps. Plus vous avez de sucre, et plus on a d'insuline, et plus on a d'insuline, et plus on a d'inflammation. Mmh. Et donc, ça va aggraver l'inflammation. Mais c'est pareil pour la thyroïde, en fait, qui gère bien la transformation du sucre en énergie. Si on ne transforme pas bien le sucre en énergie, on a plus de sucre dans le sang, et donc on aura plus d'inflammation dans le corps.
Et tu penses quoi des traitements proposé par les médecins? Je sais que moi, par exemple, ma sœur, elle a l'endométriose. On lui a donné pilule en continu, antalgique, et si ça marche pas, bah, la chirurgie.
En fait, c'est un traitement de première intention.
Ouais.
Après, moi, en tant que médecine, enfin, thérapeute en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, je vais vouloir aller chercher la cause. Donc, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Et je vais pas dire à mes patientes, par exemple, de pas prendre la pilule ou de pas se faire opérer. Je pense que ça, c'est à chacun aussi de voir ce qu'il a envie de faire aussi pour sa santé. Mmh. Il y a peut-être des gens qui n'auront pas envie d'approche en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Pour ces personnes-là, en tout cas, ce sera la seule solution probablement qu'on va leur proposer et qui va être quelque chose de positif dans leur vie. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé dans un court terme. Et puis après, de chercher pourquoi est-ce qu'on a de l'endométriose et de faire en sorte d'améliorer le fonctionnement de son corps pour éviter que ça s'aggrave et pour faire en sorte que ça s'arrête.
Parce que je vois aussi parfois dans les boutiques, donc peut-être plus maintenant, mais c'était, je ne sais pas, il y a 5 ans, du CBD pour les douleurs menstruelles. Ouais. Ça aussi, c'est des solutions à court terme.
Ça va être quelque chose qui va être utilisé pour la douleur. Mais le but, ça va être de faire en sorte qu'on arrête d'avoir mal.
Mmh. Et du coup, est-ce qu'adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est utile?
A priori, oui, parce qu'il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur l'impact du stress oxydant et du dysfonctionnement des mitochondries sur l'endométriose. Donc, effectivement, on peut très bien augmenter l'alimentation qui soit plutôt favorable à des mitochondries qui sont efficientes. On sait que le curcuma a eu des études intéressantes. Et le curcuma, c'est un antioxydant qui est connu et qui va avoir un impact intéressant sur l'endométriose. Et les polyphénols, tous les antioxydants, il y a pas mal d'études publiées sur l'impact des antioxydants sur l'endométriose.
Et qu'est-ce qui est absolument à proscrire ou au moins à réduire pour éviter les douleurs, les crises inflammatoires?
Si on parle de monsieur et madame tout le monde, si on veut diminuer l'inflammation dans le corps, globalement, on peut dire que diminuer les sucres va être quelque chose de bénéfique pour tout le monde et va avoir un impact positif sur la santé de ma patiente. Après, on peut être plus spécifique et rechercher s'il y a des intolérances alimentaires qui peuvent créer de l'inflammation. Et puis, s'il y a effectivement des déficits génétiques, comme le déficit de la fucosyltransférase 2, qui peut être compensé pour éviter d'avoir des intestins abîmés.
Donc, le sucre, c'est sûr. Et puis après, tout ce qui est en lien avec des intolérances alimentaires courantes.
En fait, si par exemple, je peux très bien trouver des anticorps positifs contre le gluten, par exemple, ou contre le lait de vache ou contre les œufs. Et effectivement, si j'enlève ces aliments-là, l'inflammation va diminuer le long des intestins de ma patiente. Mais j'aurais pas réglé le problème. Et si, par exemple, le lait de vache est positif et qu'elle se met à manger du lait de soja en grande quantité, très certainement qu'elle va devenir intolérante au lait de soja aussi. Donc, ça va être plus intéressant pour moi d'effectivement de diminuer les aliments qui vont créer de l'inflammation, mais de faire en sorte que la personne ait un meilleur microbiote, une meilleure paroi intestinale et un meilleur système immunitaire.
Est-ce que, du coup, pour améliorer tout ça, la détox, ça peut aider?
La détox, ça peut aider quand on a effectivement trop d'œstrogènes dans le corps, parce que le foie n'arrive pas à éliminer correctement les œstrogènes. Mais quand on fait une détoxification, on va dire au foie d'éliminer des choses qui sont toxiques dans le corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre dans un sac poubelle et il va les rejeter à l'extérieur de notre corps. Deux solutions, soit il les rejette dans les intestins, soit il les rejette dans la vessie. Mais s'il le rejette dans l'intestin et qu'il y a une dysbiose, eh bien, on a des enzymes qui sont capables, et des bactéries, qui sont capables de casser ces sacs poubelles. Et ce qui est à l'intérieur des sacs poubelles, qu'est-ce qu'il va faire ?
Les manger.
Non. Il va rentrer dans notre corps une autre fois. Donc, faire une détox chez quelqu'un...
Ça sort pas, quoi.
Voilà, qui a une dysbiose intestinale, faut faire attention. Ça sert probablement à rien.
Il faut pas le faire tout de suite, quoi.
Non,
faut
pas dans une première intention. Ouais.
C'est quoi les micronutriments essentiels pour une femme atteinte d'endométriose ?
Bah, en fait, moi, quand je vois les patientes, la première chose que je fais, c'est que je leur fais un interrogatoire complet. On en a pour au moins une heure. Et je vais déterminer quels sont les différents micronutriments qui peuvent leur manquer et quels sont les dysfonctionnements que je peux explorer par des voies de bilan sanguin ou de bilan urinaire. Et à partir de ce moment-là, on fait les tests et je lui dis, voilà, tu manques de vitamine D. Bon, quasiment sûr qu'elle manque de vitamine D, mais à quel point, ça, j'en sais rien parce que j'ai pas de boule de cristal. Donc, je vais faire les bilans. Je vais regarder sa vitamine A. Est-ce qu'elle a assez de vitamine A ? Pas assez de vitamine A ? Parce que si elle manque de vitamine D, que je lui donne de la vitamine D et qu'elle a pas de vitamine A, sa vitamine D fonctionnera jamais, par exemple. Mais je vais avoir le dosage en fer qui va être très important. Elles sont toutes carencées en fer. Mais après, je vais regarder les camions qui transportent le fer. Est-ce qu'elle a assez de camions ? Parce que si je lui
c'est
donne...
C'est quoi les camions, du coup ?
Alors, les camions, ça s'appelle la transférine. Ils sont fabriqués par le foie. Et en général, ils sont en quantité déficiente parce que le foie, lui aussi, est touché dans cette pathologie-là. Parce qu'il nettoie tout ce qui rentre par les intestins qui ne devrait pas rentrer.
Ce que tu disais tout à l'heure.
Voilà.
Est-ce que le fait d'avoir un bon apport en oméga-3, c'est bien ?
Oui, alors les oméga-3, énormément d'études sur l'impact de la supplémentation en oméga-3 sur l'endométriose. Les oméga-3, c'est les précurseurs des molécules de résolution de l'inflammation, donc de réparation des tissus. On veut avoir des tissus sains pour éviter que les cellules de l'endomètre puissent se fixer dessus. Donc, ça va être intéressant de supplémenter en oméga-3, en EPA et en DHA, mais deux fois plus de PA que de DHA. Et on va augmenter la transformation, enfin la fabrication des résolvines et des marésines. Mais il arrive de temps en temps que l'endométriose soit tellement avancée. Et c'est ce qui va être le cas, par exemple, quand les patientes, elles ont mal tout au long du cycle. J'ai des patientes qui vont venir me voir, et ben elles sont tellement avancées dans leur endométriose qu'elles ont mal tout le temps. Et ben là, l'endométriose est capable de désactiver l'enzyme qui transforme les oméga-3 en résolvine et marésine. Et j'ai remarqué que on arrivait à augmenter la transformation des oméga-3 en résolvine et marésine probablement avec la vitamine C, mais on peut aussi donner des résolvines et des marésines, ça se trouve en complément alimentaire.
En plus, ouais. Parce que là, tu parlais aussi de carences qui sont très courantes, en fait, chez les femmes. Donc, la vitamine D, le fer. Et du coup, l'autre carence courante, c'est le magnésium.
Oui.
Est-ce qu'il y a besoin ?
On peut en donner du magnésium, mais le magnésium, il compense aussi beaucoup la carence en vitamine D. Alors, le magnésium, c'est aussi un cofacteur pour énormément d'enzymes. Donc, c'est intéressant d'en donner. Mais est-ce qu'on peut pas augmenter leur alimentation en magnésium ?
Ouais,
on en trouve naturellement dans l'alimentation. Doser le magnésium, c'est très compliqué. On peut en proposer et voir si effectivement ça a un impact.
Même pour les crampes ?
Tout à fait. On peut essayer. Moi, il y a des fois où je dis aux patientes, vous avez des crampes, ou vous avez l'œil qui saute ou un truc comme ça. Je pense que ça peut vous aider de prendre du magnésium. On va essayer. Elles me disent qu'elles sont mieux, on garde le magnésium. Elles me disent que ça n'a rien changé, on garde pas le magnésium.
Ouais. Ok.
Mais ce qui est important, c'est de regarder dans l'alimentation si l'alimentation effectivement est équilibrée et contient du magnésium. Bon, la plupart du temps, ça l'est.
Est-ce qu'on peut améliorer les douleurs chroniques et ciblées et la qualité de vie avec d'autres choses que la micronutrition ? J'imagine la phytothérapie, le yoga, la méditation ou l'acupuncture. Enfin, il y a peut-être d'autres alternatives qu'on peut venir compléter.
Oui, bien sûr. Oui. L'acupuncture. Moi, je travaille avec. Je suis dans un hôpital où ma salle de consultation est juste à côté de la salle de consultation des sages-femmes acupunctrices.
Donc on
se travaille souvent conjointement. Donc, c'est vrai qu'elles vont souvent voir une sage-femme acupunctrice. Donc, j'ai cette chance-là, donc c'est quasiment toujours. Je sais qu'il y a des ostéopathes aussi qui peuvent aider.
Oui,
il y a des ostéopathes qui aident.
Ils aident comment, du coup?
Ben, je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas ostéopathe, mais je sais qu'il y a des patientes qui sont allées et où effectivement... Alors, je pense que le fait d'avoir tout le temps mal crée des tensions. Elles doivent compenser sur les muscles. Et le fait d'aller voir l'ostéopathe, peut-être que ça débloque des positions qu'elles avaient prises où c'était très tendu.
Ouais,
ça, c'est possible aussi.
On parle beaucoup d'actifs puissants pour la santé féminine. Je pense au gâtillier, à la chélmine, l'igname sauvage... qu'on a du coup dans notre gamme aussi le boswellia ou le cumin noir, c'est des choses avec lesquelles tu travailles.
Je vais travailler avec ça, oui. Ça va m'aider, mais je vais pas l'utiliser pour tout le monde, parce que je vais faire quelque chose de personnalisé. La première chose que je fais, c'est de faire en sorte que la personne mange correctement et toutes les vitamines, micronutriments qu'il lui faut. Et puis après, effectivement, si ça dure, à ce moment-là, on va utiliser des plantes.
Et peut-être aussi, je pense au rôle du l'EGCG, du coup, dans le thé vert. Ouais, ça, c'est encore quelque chose qu'on peut venir rajouter.
Bien sûr. C'est un antioxydant. Et les études ont montré... tous les antioxydants. C'est le stress oxydant qui a été mis en cause dans beaucoup, beaucoup d'études. Donc, tous les antioxydants vont être probablement bénéfiques pour cette pathologie.
Tu parlais des polyphénols.
Oui.
On peut citer du coup...
Le resveratrol.
Et l'OPC.
L'OPC. Le coenzyme Q10.
Oui.
Le PQQ.
Oui.
J'arrive jamais à
dire le nom. Mais c'est ça, c'est le nom.
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le curcuma. On l'a dit tout à l'heure.
J'avais jamais entendu le cumin noir ou l'huile de nigel.
Oui. Alors, l'huile de nigel, je l'utilise parce qu'il y a souvent des pathologies avec une inflammation chronique liée à des virus ou bactéries. Mmh. Et l'huile de nigel va aider dans ce sens-là.
Et tu penses quoi de notre complexe endo? Je l'ai mis là.
Alors, attends. Tu sais que je ne l'utilise pas toujours parce que, en fait, comme j'adapte aux gens, j'ai pas forcément, je vais trouver les choses ailleurs. Alors, vitamine D, je vais forcément en donner, mais elle sera pas assez dosée dans le complexe endo par rapport à ce qu'ont besoin mes patientes. Je leur donne toujours de la vitamine B6, B9, B12, donc parce que ça va gérer la dégradation des œstrogènes dans le foie, puisque c'est géré par la méthylation, et donc toutes les vitamines B. Il va y avoir la vitamine A. Alors, il n'y en a pas dans votre complexe. Donc, si je fais un dosage en vitamine A, qu'elle est normale, je vais m'en fiche.
Ouais.
Mais concrètement, si la personne manque de vitamine A, je changerai son alimentation. On a tous les cofacteurs, comme le sélénium, le zinc. Bon, il va nous manquer peut-être le fer, je crois.
Ouais, oui, le fer, ça. On le met toujours à côté parce que, pareil, il faut doser en fonction de la personne.
Oui, on a oublié celui-là. C'était le glutathion.
Ah,
le glutathion, c'est un antioxydant qui est intéressant. Le coenzyme Q10, il y a du resveratrol, du lycopène, de l'astaxanthine, qui est aussi un autre antioxydant très intéressant, de l'extrait de thé vert. Et puis après, il y a toutes les plantes qui sont des plantes adaptogènes et qui vont aider à gérer l'hyperœstrogénie, qui sont intéressantes.
Du coup, ça, c'est vraiment... tu l'utiliserais quand?
En fait, je l'utilise que si, quand j'ai donné toutes les vitamines, la personne a toujours mal.
OK.
Mais... comme il y a plein de fois où j'arrive à me débrouiller sans, je ne vais pas
avec
forcément...
Juste avec
de la vitamine et des minéraux.
OK.
Et donc, en fait, je ne vais pas avoir forcément besoin des plantes.
Mm-hmm.
Et puis, je n'ai pas de diplôme en phytothérapie. Et donc, mais je l'ai déjà proposé, effectivement. Et j'utilise le gâtillier ou l'achillée millefeuille, comment ça s'appelle?
L'achillée millefeuille. Oui, c'est ça. Les noms vernaculaires, c'est difficile.
Non, mais j'ai pas de diplôme en phytothérapie, moi.
Oui, oui.
Donc, voilà.
Et sinon, c'est quoi que tu recommandes, par exemple, comme, on a vu le fer, etc., mais la fatigue, elle persiste quand même?
Non.
Rien?
Normalement, elles sont plus fatiguées après qu'elles aient les intestins réparés et tous les micronutriments qu'il faut. C'est vrai que la plupart du temps, elles ont un problème avec un hyperinsulinisme. Et donc, le fait de diminuer le sucre diminue l'insuline dans leur corps et diminue l'inflammation. Et ça, elles le sentent. Mmh. Et ça leur donne un regain d'énergie.
Bon, déjà, c'est pas mal. Ça donne quand même de l'espoir. Il y avait quelques stratégies que j'ai listées et j'aimerais bien que tu me dises vrai ou faux. Donc, je te donne chaque phrase et ensuite, tu me donnes ta réponse. La première, c'est « La consommation d'aliments riches en graisses trans peut augmenter l'inflammation et aggraver les symptômes de l'endométriose. » Vrai ou faux ?
Vrai. Ben oui. Et donc, je leur dis de manger beaucoup de gras, mais...
Graisse saine.
Alors, que des huiles première pression à froid ou du beurre ?
Du beurre quand même ?
Ouais, du beurre quand même.
C'est mieux que l'huile ?
Ah oui.
Pour
si c'est des huiles de graines chauffées, non, ce sera pas bon. Il vaut mieux manger du beurre. Hein.
Ah ouais.
Et vaut mieux manger du beurre que de la margarine.
Ouais, bah ça, c'est
voilà.
Plus transformé, on va dire.
Oui, tout à fait. Donc, il vaut mieux prendre de l'huile d'olive vierge, première pression à froid, de l'huile de noix, de l'huile de colza à froid, enfin, de l'huile de coco. L'huile de coco, très bon.
Ouais, pour la cuisson, c'est
tout à fait.
Ensuite, j'ai les phytoestrogènes présents dans les aliments comme le soja et le lin peuvent aider à réguler le niveau d'œstrogène dans le corps.
Tout à fait, ils peuvent aider. Oui. Oui. Ainsi, c'est des bons œstrogènes. Donc, effectivement, on ne va pas aggraver l'hyperœstrogénie.
Ensuite, j'ai l'alimentation végétale n'a aucun effet sur l'inflammation liée à l'endométriose.
Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir qu'une alimentation végétale parce que souvent, c'est compliqué d'y arriver. Par contre, je dis à mes patients de manger beaucoup de légumes. Parce que dans les légumes, qu'est-ce qu'on a ? On a des antioxydants. Et plus on mange des légumes bio, et plus on aura d'antioxydants dedans. Parce que les légumes bio sont plus riches en antioxydants, puisqu'ils doivent se défendre contre les agresseurs, qui sont les petites bêtes qui veulent les manger. Et donc, ils font fabriquer beaucoup plus d'antioxydants que ceux qui ne sont pas bio.
Donc, plutôt pas végétal pour avoir des apports en fer ou...
Alors, il faut manger beaucoup de légumes pour donner des bons micronutriments au système immunitaire et puis donner des fibres pour les intestins, parce qu'on veut avoir un bon microbiote. Mais il faut aussi manger de la viande pour avoir du fer et du zinc, pour avoir un bon système immunitaire et diminuer l'hyperœstrogénie.
Ensuite, j'ai faire de l'exercice régulièrement, même modéré, peut avoir un effet bénéfique sur la gestion de la douleur dans l'endométriose. Vrai ou faux ?
Bah oui, ouais. Bien sûr. Oui, il y a énormément d'études qui montrent ça. Plus on fait d'exercice, meilleur on a un fonctionnement de notre corps, plus on a des mitochondries efficientes. C'est sûr.
Oh, top. Okay.
Faites du sport.
Ensuite, les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires et sont bénéfiques pour les femmes atteintes de l'endométriose.
Bah oui, puisque ça fabrique les résolvines et les marésines qui permettent de réparer les tissus.
L'alcool et le café pour les femmes souffrant d'endométriose, c'est OK ? Vrai ou
faux ? Oui, l'alcool et le café, mais bon, en quantité modérée, parce que si on prend trop d'alcool et... alors, le café... Enfin, je ne sais pas ce que c'est que trop de café.
J'ai juste mis café, OK.
Café, c'est OK, oui. Bah, à moins qu'on prenne 5 cafetières par jour. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Une consommation raisonnable de café, on va dire, oui, c'est OK. L'alcool, c'est pas forcément la meilleure des choses à prendre quand on a, parce que ça va augmenter l'inflammation. Et puis ça va pas nous aider au niveau du foie.
Ouais. Le stress joue un rôle dans l'intensification des symptômes de l'endométriose.
Oui, le stress, c'est mauvais pour la santé, ça aggrave toutes les pathologies.
Pour tout le corps.
Ouais, c'est mauvais le stress.
Ouais. Dans chaque épisode, le stress, ça c'est revient.
Donc, tu vois, pas bon le stress.
Au moins, c'est clair. Les antioxydants comme la vitamine C, A, E, sélénium, zinc peuvent réduire l'inflammation liée à l'endométriose.
Bien sûr. Mais je dirais avec modération parce que la vitamine E en excès est pro-inflammatoire plutôt qu'anti-inflammatoire, par exemple.
Ensuite, la chaleur appliquée sur l'abdomen peut porter un soulagement temporaire des douleurs liées à l'endométriose.
Bien sûr. Il y a la chaleur, il y a les TENS aussi.
C'est quoi ?
Les TENS, c'est des petites plaques qu'on met dans le dos et qui font des petites décharges électriques et qui diminuent la douleur.
Ah bon ? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y avait une femme dans le questionnaire aussi qui nous avait dit qu'elle se brûlait tellement, elle portait la bouillotte tout le temps à cause des douleurs. Mais oui, ça c'est encore un autre problème qui s'ajoute.
En fait... Je pense que la chaleur doit augmenter la circulation du sang Mmh. Et donc, ça doit aider à diminuer l'œdème mais... et puis l'inflammation.
Ouais, vraiment difficile à vivre avec des douleurs comme ça au quotidien. Et ça ne doit pas être facile non plus pour la santé mentale. En posant des questions voilà, à notre communauté, le plus compliqué pour elle, c'était d'allier les symptômes au travail, à la vie sociale et amoureuse, bah, surtout à cause des absences, du mal-être. Donc, je suis pour la sororité et je voudrais m'adresser aux femmes nouvellement diagnostiquées. Vous n'êtes pas seules. Hein. J'aimerais vraiment qu'on voit ensemble les conseils qu'elles nous ont donnés. Mm-hmm. Et que aussi, tu puisses ajouter les tiens personnels. Donc, le premier conseil, c'est il faut se battre pour obtenir un diagnostic et ne rien lâcher. Là, vraiment, de toute manière, quand on le voit, si on met 7 ou 10 ans à être diagnostiquée...
En général, quand elles sont diagnostiquées, elles ont très mal.
Ouais.
Elles ont une douleur qui est notée entre 7 et 10.
Ouais, justement. Il y a des solutions pour apaiser les douleurs et retrouver une vie normale. Ça, c'est ce qu'elles, ce qu'elles disent. Donc, même après être diagnostiquée, c'est possible de revenir à la normale, quoi.
Mais par contre, il faut vraiment penser à son alimentation, à changer son mode de vie. Diminuer son stress, améliorer ses conditions de vie, faire du sport, manger des aliments qu'on va chercher et qu'on va fabriquer nous-mêmes, pas acheter des aliments ultra transformés, diminuer le sucre, tout ce qui est carbohydrates. Donc quand dans les sucres, je mets aussi les céréales, les pommes de terre, le riz.
Ah oui. Donc ça, il faut vraiment faire le minimum.
Et augmenter l'apport des bons gras.
Il y a aussi des personnes qui expliquent qu'il y a des moyens pour réduire les symptômes qui sont contraignants quand on est jeune. Par exemple, j'ai une personne qui dit « J'ai fermé les yeux durant ma vingtaine parce que je n'acceptais pas d'arrêter certaines mauvaises habitudes. Mais depuis que je suis plus stricte, ça a clairement changé mon quotidien. » En fait, c'est ce que tu disais, mais il faut le faire pour
c'est sûr que la bière le soir, un verre de bière le soir, à mon avis, ça doit... plutôt aggraver l'endométriose. Donc, si effectivement on change, par exemple, la bière avec une tisane le soir, on se met à faire une heure de sport avec ses copines, que on mange des salades le midi avec de la vraie viande, pas un truc pané.
Ouais. Un autre conseil, c'est de s'aider et de partager nos bons plans contre les douleurs et l'amélioration. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec. Avec cet épisode, toi, qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ça ?
L'entraide entre femmes est quelque chose de primordial. Et le fait de discuter entre nous, de partager, permet d'ouvrir des possibilités pour des gens qui n'avaient même pas pensé qu'ils pouvaient avoir un impact sur leur santé, notamment.
Ouais. Ouais, ou qu'il n'y a pas besoin d'accepter cette douleur pour la vie, quoi.
Tout à fait. Et qu'on peut. Et puis, devoir partager avec des gens qui ont fait des choses et qui se sont améliorés leur santé, qui n'ont plus de douleur de l'endométriose.
Ouais. Que c'est possible.
Ça leur fait du bien. Hein.
Ouais. J'espère en tout cas que tous ces conseils vont pouvoir aider certaines personnes. Moi, je suis ravie de t'avoir eu avec moi pour aborder ce sujet complexe, mais vraiment intéressant. Et j'espère aussi qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent et qui puissent également s'informer, parce qu'il y a une chance sur 10 que leur campagne soit touchée. Donc les gars, je compte aussi sur vous pour en parler également. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Votre soutien nous est précieux et nous permet vraiment de continuer à proposer des contenus éducatifs comme aujourd'hui. Merci Hélène encore d'être venue dans notre épisode.
Merci Noémie de m'avoir invitée et de m'avoir permis de parler de ce sujet.
En attendant le prochain, prenez soin de vous avec Sonne Naturelle. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi tes compléments préférés, personnels?
Non, mais ce que je prends tous les jours, tu veux?
Ouais, bah, okay. Au moins ta petite
routine. Moi, je prends... mais moi, j'ai un BRCA1, donc ma priorité aujourd'hui, c'est de ne pas me prendre un cancer du sein. Donc, je prends du mytho support ultra antifatigue parce qu'il y a tous les antioxydants qui permettent d'empêcher la glutamine de se transformer en énergie, dans les cellules cancéreuses. Et puis, dedans, il y a tous les micronutriments pour aider à la méthylation et donc à la transformation des œstrogènes en produits anti-cancer. Après, je prends de la vitamine D 20 000, 3 fois par semaine. Parce que,
ah oui.
Ouais, parce qu'il me faut une vitamine D au-dessus de 80 et que si je descends en dessous, je descends ma vitamine D et que je ne peux pas me le permettre.
Ah, waouh.
J'ai la K2 dans le mytho support, donc ouais. Ça va. Et puis, je me prends du safran pour supporter de travailler de 7h à 21h, 22h le soir.
Est-ce que le safran, ça a fait quoi?
Le safran, c'est un antidépresseur.
Okay.
Et ça permet d'être calme. Et j'ai besoin de ça parce que je travaille à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps dans mon cabinet. Et je m'occupe de deux personnes âgées et de jeunes
adultes. En plus, ouais, à la maison.
Donc, il faut que je reste calme.
Oui.
Voilà.
On se pose.
Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends de l'iode 16 mg tous les jours. Et je me demande si je ne devrais pas en prendre plus parce que j'ai encore des petites bosses sur le... Tu sais, je regarde sur les tibias.
Mm.
Et si tu as des bosses, c'est que tu manques de d'iode.
Ah, je ne savais pas.
Ouais. J'ai appris ça avec une acupunctrice.
Ah oui.
Et qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends du curcuma.
Ouais. En gélule ou en poudre?
En gélule. J'en mets aussi dans l'alimentation, mais je le prends en gélule. Et je prends des oméga 3.
Ah oui.
J'ai fait,
plus
j'ai
de PA 4. Ou plus de DHA?
Non, je prends deux fois plus de PA que de DHA. Mmh. Je prends alors, c'est pas le vôtre que je prends,
oui.
Mais je prends du 44%, l'équivalent de votre 44% et 22% de... Parce que je fais vraiment attention qu'il y ait moins de DHA que de PA.
Mmh.
Voilà.
Bah, merci. C'est
ce que j'ai fait tout le
temps. Oui.
Ouais, je pense que c'est tout ce que je prends.
C'est déjà pas mal. Pas mal
non, oui, c'est déjà pas mal.
Mais il y en a qui en prennent encore plus. Hein.
Ah oui.
Oui. Et oui, on peut monter jusqu'à 40-50 gélules par jour, quoi. Bon, bah, merci en tout cas pour ta petite routine.